Ed.
Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir.
Richard Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino.
Bonjour, merci d'être fidèle à Cube. Mon ami Guy Perkins, qui une fois par semaine nous parle de laïcité, de raison, de pensée critique, de religion ici à l'émission, il a sur sa page Facebook, il y a une photo qui circule sur les médias sociaux où on voit Donald Trump avec une tête un peu comme un pénis, là. Sa tête, c'est un peu comme un pénis, et c'est écrit « Dickhead ». Fait que lui, bon, il a trouvé ça drôle, fait qu'il a mis ça sur sa page Facebook. Oh non, Facebook, là, l'ont puni. Oh là là, vous êtes en train de publier des choses épouvantables, puis là, une petite tape ses doigts, puis il va te barrer peut-être de Facebook pendant quelques jours et tout ça. Pendant ce temps-là, ben, tu peux, je sais pas, diffuser des images contre, ou des images ou alors des textes virulents contre Israël, aucun problème, ça passe. Tu sais, c'est comme quand on tente d'encadrer le discours sur les médias sociaux, là, tout ça est fait avec des algorithmes, avec des robots, puis tout ça. Puis c'est n'importe quoi. Moi, j'ai été barré des fois pour des affaires complètement stupides et absurdes, ou du deuxième degré que l'algorithme ne comprenait pas. Mais tu vois, d'autres messages que les autres, ils n'ont aucun problème, qui passent, alors que c'est épouvantable, puis c'est vraiment élevé comme message. Bref, essayez de faire le ménage là-dedans, c'est n'importe quoi, c'est de l'arbitraire. Je veux vous parler d'un film que j'ai vu hier sur Netflix, qui s'intitule Scope. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019, le prince Andrew a accordé une entrevue dévastatrice à la BBC, parce que il y a une photo qui circulait, on voyait le prince Andrew enlaçant une jeune fille mineure, et il y avait Jeffrey Epstein, parce que le prince Andrew allait sur la fameuse île de Jeffrey Epstein, où on organisait toutes sortes d'orgies puis de parties de cul avec des mineurs, et le prince Andrew était un habitué et un ami de Jeffrey Epstein. Et là, bon, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulaient, les gens disaient ça n'a pas de bon sens. Donc, lui, pour essayer de redorer son image, finalement, accorder une entrevue à la BBC. Et ce film-là, c'est toutes les tractations de coulisses pour obtenir l'entrevue. C'est pas rien là, que soudainement, le prince Andrew s'assoit devant une journaliste pour répondre à ses questions concernant sa vie sexuelle et des relations avec des mineurs. Donc, toutes les tractations avec le palais de Buckingham pour arriver à cette entrevue-là. Mais on nous rappelle, parce que tu sais, des fois, on oublie des choses. À un moment donné, on nous rappelle, tu vois, l'équipe de journalistes de la BBC qui obtiennent la liste des passagers du fameux avion Lolita Express. Donc, si vous vous souvenez, Jeffrey Epstein avait un avion privé, jet privé, qui s'appelait Lolita Express. Lolita, bien sûr, clin d'œil au roman de Vladimir Nabokov qui racontait l'histoire d'un homme de 43-44 ans qui sortait avec une jeune fille, qui avait des relations sexuelles avec une jeune fille de 12-13 ans. Donc, écoute, le gars... Et on dit... Epstein, il se cachait pas, là. Et à un moment donné, il y a un personnage dans le film qui dit « Écoute, tu ne pouvais pas être ami avec Jeffrey Epstein et ne pas savoir que ce gars-là organisait des parties de cul et des orgies avec des mineurs, puis qui, sur son île, que c'était comme un genre de paradis où des gens très fortunés s'envoyaient en l'air avec des mineurs. C'était impossible de pas le savoir. Quand on entrait chez lui, il y avait des photos de jeunes filles dénudées, tout ça. Il y avait toutes sortes de rappels à ça. Ça faisait partie de sa culture, de sa personnalité. Donc, même son avion s'appelait Lolita Express. Et là, à un moment donné, les journalistes de la BBC tombe sur la liste des passagers de cet avion-là. Et bien, le gars qui a pris le plus souvent l'avion dans le Lolita Express, celui qui s'est rendu le plus souvent sur l'île privée de Jeffrey Epstein, bien, c'est Bill Clinton. Tu sais, Bill Clinton, son nom revenait extrêmement souvent. C'est impossible que Bill Clinton allait là rien que pour jouer au golf. Impossible. Je veux dire, c'était des parties organisées. Tu sais, quand les républicains, les complotistes le disent, là, les démocrates, ils organisent des parties de cul avec des jeunes filles, avec des mineurs, ce sont des pédophiles, puis tout ça, puis Hillary Clinton est là-dedans, puis tout ça. Des théories du complot, aussi folles soient-elles, c'est toujours basé en partie sur des choses qui sont vraies. Ça part d'une histoire vraie. Et Clinton, c'est impossible que Clinton allait là et ne savait pas ce qui se passait et ne voyait rien. Et ce gars-là, quand même, Bill Clinton, s'en est sorti parfaitement. Hein? Est-ce que il a été traîné devant les tribunaux? Non. Puis Jeffrey Epstein, son suicide, entre guillemets, je ne suis pas complotiste, mais quand même, là, il y a des gens de la monarchie britannique, des anciens présidents, des gens fortunés, tu sais. Quand les gens disent, là, les complotistes disent, il y a comme une internationale de gens fortunés qui organisent des parties pédophiles, tout ça, ben, il était pas très loin de la réalité. Bref, c'est très intéressant. Je vous invite vraiment à regarder ce film-là qui s'intitule Scoop. Est-ce que vous avez vu le texte dans Le Devoir, Le secret imposé de Nordvolt? Alors, c'est assez hallucinant, sous la plume de Alexandre Shields. Alors, Nordvolt, ils ont fait comme un genre de comité, le comité de liaison avec la communauté. Alors, en disant, nous autres, on est transparents, alors il va y avoir un comité qui va siéger, il va y avoir des membres de Nordvolt sur ce comité-là, puis il va y avoir des citoyens. Puis si les citoyens ont des questions à poser, ben c'est là que ça va se discuter, puis vous allez voir, on va discuter avec vous, puis on va montrer à quel point on est transparent. Sauf que les gens qui vont assister à ces réunions-là doivent signer un contrat de non-confidentialité, comme quoi il n'y a rien qui va sortir de ce qu'ils ont entendu. Donc, c'est bien beau qu'ils peuvent discuter avec les dirigeants de Nordvolt, mais ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent strictement rien dire. Et là, c'est une entente, écoutez, c'est une entente complètement débile. Je vais vous lire des parties de ça. Ils ont le droit de parler de rien, là. C'est complètement fou. Je vais vous lire ça. Les informations confidentielles de Nordvolt peuvent inclure les plans de produits, les conceptions de produits, les données sur les coûts, les prix des produits, les coûts des matières premières, les informations sur les clients, les résultats financiers, les plans de marketing ou stratégiques, les opportunités commerciales, la recherche, le développement, le savoir-faire, le personnel, les spécifications, les processus de fabrication, les dessins, les logiciels, les données, les échantillons et les prototypes préparés, détenus ou appartenant à Nordvolt et à l'une de ses sociétés affiliées, où qu'elles se trouvent dans le monde, ainsi que toutes les copies, notes et tous les produits dérivés préparés pour la partie réceptrice qui contiennent des informations confidentielles, qu'elles soient ou non spécifiquement identifiées comme telles. Écoutez, blablabla, puis ils disent, et plein d'autres choses. C'est-à-dire que, tu sais, on va vous rencontrer, on va discuter avec vous, mais vous n'avez pas le droit de dire de quoi on a discuté. Alors, ça sert à quoi? Et là, il y a des juristes qui ont été rencontrés, là, des juristes et des avocats qui ont été rencontrés par le journaliste du Devoir et qui ont dit, ben moi, si j'étais un citoyen, jamais je ne signerais ce contrat-là. Et regardez, là, on parle souvent avec Yves Daou, avec qui on parle d'économie tous les jours, régulièrement. Le Journal de Montréal fait des demandes d'accès à l'information, OK? Et là, les documents reviennent du gouvernement, des différentes sociétés d'État. C'est cavardé de bas en haut. C'est cavardé. Il y a comme une culture du secret, là. On va mettre $1 milliard là, dans Nordvolt. On peut-tu savoir quels sont les tenants, les aboutissants, les conséquences, les impacts? C'est notre argent à nous. Et là, non. On n'a pas le droit. Les documents sont hyper cavardés. Les gens qui participent au comité ne peuvent pas dire exactement la teneur des discussions. On a discuté de quoi, tout ça. Il y a vraiment une culture du secret. Et là, on se demande, est-ce qu'on vit en démocratie au Québec, oui ou non?
Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
Une mini-grève à la SAQ qui a duré 2 jours, mais bon, est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce qu'il va y avoir une grève plus longue? Mais ça pose toujours la question, qu'est-ce que l'État fait dans le commerce au détail? Moi, je ne comprends pas ça. En début de semaine, j'ai discuté avec Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, qui, lui, ne veut pas abolir totalement la SAQ, mais il veut qu'il y ait une compétition, parce que le consommateur s'en sort toujours gagnant lorsqu'il y a une compétition, donc il y aurait effectivement la SAQ, le réseau public, mais il y aurait aussi des cavistes qui pourraient vendre du vin et de l'alcool. Et bon, moi, je trouve la proposition d'Éric Duhaime que ça tombe sous le sens, mais Elsie Lefebvre, que vous connaissez, elle est complètement contre. Elle est avec nous parce qu'on veut continuer la conversation. Salut, Elsie.
Bonjour, Richard.
Bon, ben parle-moi de ta réaction au propos d'Éric Duhaime que j'ai reçu en début de semaine à l'émission.
Bon, ben en fait, tu sais, sur la SAQ, moi, je ne suis pas contre des innovations. Donc, je pense que le modèle de la SAQ peut évoluer. Puis oui, on peut permettre, tu sais, notamment la vente là, dans certains restaurants où, bon, il y a des importateurs qui font affaire directement avec, tu sais, avec les producteurs locaux dans d'autres pays. Tu sais, bref, moi, je pense qu'il y a quand même un certain dépoussiérage, qu'il y a des améliorations qui veulent être faites. Mais Éric Duhaime, tu sais, ça fait longtemps qu'il lui prône une privatisation de la SAQ. Donc là, il y a nuancé.
Non, mais il veut une mixité, là. Il a dit, là, il veut une mixité, qu'il y ait encore des succursales de la SAQ, mais qu'il y ait des cavistes privés aussi.
Ouais, mais bon, tu sais, parce que quand on l'écoute là, depuis des années sur ce discours-là, c'est, tu sais, ça va pas mal plus loin que juste vraiment, tu sais, ajouter quelques cavistes à l'offre québécoise. Puis moi, globalement, je ne comprends pas, tu sais, pour vrai, là, je me force, mais je ne comprends pas du tout pourquoi on se priverait de la SAQ puis du modèle existant, qui est extraordinaire, notre modèle existant. Puis quand je compare dans le monde à d'autres affaires qui se font, en fonction de la population et du territoire qu'on a, parce qu'il faut comprendre qu'on a un immense territoire, on est 8-9 millions de personnes, donc si on peut pas comparer à la France, par exemple, qui est un territoire plus petit, mais je veux dire, et avec une densité tellement plus grande, même chose pour d'autres pays européens. Donc le Québec, dans la mesure de ce territoire, de cette population, je trouve que le modèle de la SAQ nous sert excessivement bien. Il y a plus de 400 succursales, 400 agences partout au Québec qui offrent des services de qualité, une diversité de produits. Parce que c'est sûr que c'est sûr qu'à Montréal, par exemple, il y en aurait là, des beaux cavistes, tu sais, avec des murs, tu sais, remplis de bouteilles rares et spéciales et tout ça. Mais je veux dire, il n'y aurait pas ça dans le fin fond de Chibougamau, là. Ça, c'est comme...
Non, mais justement, dans le fin fond de Chibougamau, il y aurait des comptoirs de la SEQ puis tout ça. Mais on permettrait... Regarde, par exemple, la SEQ a annoncé là, qu'ils vont retirer beaucoup de produits québécois des rayons, entre autres les gins québécois, parce qu'à un moment donné, tout le monde s'est lancé là-dedans. Puis là, il y a des centaines de produits de gins faits au Québec. Et il y en a des très bons, d'ailleurs. Là. Moi, j'essaie tout le temps de privilégier, quand je vais à la SEQ, de privilégier des alcools faits ici, bien sûr. Donc, mais là, ils disent qu'il y en a trop, fait qu'il va falloir faire le ménage là-dedans. Mais tu peux imaginer qu'il, mettons, il pourrait avoir un caviste. Là, le gars, c'est un fan de gin. Il est spécialisé en gin. Fait que ce serait un commerce. Il vendrait rien que du gin. Des gins fabriqués ici, des gins qui viennent de partout à travers le monde. Puis là, les fans de gin iraient là, puis tout ça. T'sais. Quel serait le problème? Et puis les bouteilles, bien, seraient taxées. Là. Il y aurait de la taxe sur ces bouteilles-là. Là. Ça ramènerait quand même de l'argent dans les coffres du gouvernement, elle-ci.
C'est sûr qu'on pourrait faire ça pour certains produits. Dans le cas du gin, par exemple, puisque c'est un produit qui est fait au Québec, peut-être qu'il pourrait y avoir des boutiques, effectivement, où ils vendent du gin, parce que dans le fond, pourquoi la SAQ? Moi aussi, là, j'en achète là, du gin, là, puis j'essaie d'acheter le plus de produits québécois, et depuis longtemps, même chose pour les fromages, mais ça, on pourrait s'en parler. Mais, coûte très cher, sont délicieux, mais sont assez chers quand même. Mais ça, pour dire que, oui, c'est super, mais tu sais, oui, il va y avoir une belle boutique de gin à Montréal, il va peut-être en avoir une à Rimouski, à Québec, mais dans le reste des autres succursales, c'est qu'à un moment donné, ça va cannibaliser la fonction de la SAQ. Je veux dire, c'est une SAQ dépouillée de tous ses produits, puis de produits vedettes, à un moment donné, ça peut pas fonctionner. Puis moi, ce que je m'explique pas, c'est que la SAQ, tu sais, parce que j'entends aussi des gens dire, ah ouais, mais là, les employés de la SAQ sont trop payés, tatati, tatata. Hey, ils sont payés 23 $ de l'heure. Là. Je pense pas que, c'est, je veux dire, on n'est pas en train là, ici de parler de salaire faramineux. Mais je veux dire, tant mieux. C'est une société d'État qui fait dans le commerce de détail est capable de donner plus que le salaire minimum. Moi, je trouve ça excellent. D'autant plus, puis ça, c'est l'argument massu. La SAQ retourne 1,5 milliard de dollars de dividendes, là, pur. Là. Ça compte pas la TPS et la TVQ.
Mais qu'elle continuerait à faire avec les taxes. Les vins et les spiritueux continueraient d'être taxés.
Exactement, mais ça, c'est à part. Parce que quand tu regardes là, les taxes, la SAQ, je l'avais ici, envoie 517 millions au fédéral en taxes. Et envoie, en tout cas, un autre montant là, substantiel en taxes au gouvernement du Québec. Fait que ça, ils font ça. Mais la dividende, là, juste le profit sur le fonctionnement puis la vente de l'alcool sans les taxes, ben c'est 1,5 milliard.
Mais t'imagines, Elsie, l'argent qui entrerait dans les coffres de l'État s'il y aurait la Société des pantalons du Québec. Alors, on devrait se lancer aussi dans la vente au détail de pantalons. T'imagines, ça serait bon pour les coffres du Québec, ça. Je veux dire, là, puis là, les gens qui vendraient des pantalons auraient un fonds de retraite, un fonds de pension, des avantages sociaux. Ça serait des fonctionnaires de l'État. Allons-y aussi là-dessus, là. La Société du steak du Québec. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait dans le commerce au détail? Vraiment.
Ben, je trouve pas que la comparaison, j'adore pas cette comparaison-là. Pourquoi? Parce que ici, on parle de vice. Donc, les loteries, c'est le gouvernement du Québec qui gère l'Auto-Québec. Le cannabis, on s'est embarqué dans le cannabis parce que ça s'en allait au marché.
Vice! On est en 2024, là, Elsie? En 2024, le vice, le vin. Le vin, et le non, vice.
Mais, et non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est pas genre un produit alimentaire sain à la base de notre alimentation.
OK, Elsie, excuse-moi, la bière est vendue dans des dépanneurs en vente libre. Est-ce que il y a des gens qui se saoulent la gueule avec de la bière puis qui ils battent leurs enfants puis leurs femmes puis tout ça? Est-ce que la bière devrait être interdite de vendre dans les dépanneurs et seulement le gouvernement qui vend la cigarette? La cigarette, ça cause des dommages, les coûts énormes pour la société, tout ça. Est-ce qu'on devrait avoir une société du tabac du Québec?
Ben non, je pense pas qu'on devrait aller vers ça. Mais là, on l'a, la SAQ, c'est là que c'est différent. Puis, tu sais, je veux dire, tu te promènes à l'échelle du Québec. Tu sais, quand on compare la privatisation de la SAQ, là, on parle souvent de l'Alberta. Mais sérieusement, l'Alberta, c'est vraiment pas un modèle exceptionnel, là. Puis souvent aussi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont comparer une bouteille de piquette, là, je sais pas trop dans quel magasin. Puis là, ils vont dire, la bouteille de piquette est moins chère dans ce magasin-là qu'à la SAQ. Mais non, mais c'est parce que quand tu regardes au total, puis la diversité de l'offre qu'on a, on est chanceux. On est un des marchés dans le monde qui a le plus de diversité. C'est incroyable. La force de frappe. D'ailleurs, la SAQ est reconnue. On est capable d'avoir des prix vraiment moins chers pour des produits de qualité parce que on a cette force de frappe d'être capable d'acheter en gros à l'étranger auprès de producteurs. C'est formidable. Donc,
pourquoi d'abord les dépanneurs ont le droit de vendre du vin de piètre qualité puis les épiceries aussi? Est-ce qu'on devrait retirer ça des épiceries et des dépanneurs?
Bien, ça, c'est des embouteilleurs. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est des espèces de recettes. Là, donc, ils font venir des gros barils de vin de pas très bonne qualité par ailleurs. Ils font des espèces d'assemblages. C'est ça qu'on retrouve dans les épiceries, dans les dépanneurs. Donc, je pense qu'en soi, je sais pas, je connais pas ce dossier-là, mais ça doit être peut-être, je pose une hypothèse, une manière de contourner justement la SAQ. Mais de toute façon, on n'en veut pas de ces vins-là. C'est pas bon, ces vins-là d'épicerie puis de dépanneurs. Là, on a la SAQ qui ont des spécialistes.
OK, mais tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que la bière devrait être vendue seulement par le gouvernement? C'est de l'alcool, tu parles de vice.
Non, mais ça, tu as raison, mais je me dis pourquoi? Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut grossir le monopole. Je vais juste dire, wow, on a quelque chose qui permet d'avoir dans toutes les régions du Québec, sérieusement, on va dire les vraies affaires, c'est pas vrai qu'il y aurait des beaux, tu sais, dans le beau cavis, là, extraordinaire. Hey, la SAQ a eu, des gens qui ont eu de la difficulté à les faire vivre. Ils en ont mis deux à Montréal.
Il y aurait des comptoirs de la SAQ dans certaines régions éloignées. La SAQ continuerait de servir certaines régions. Oui. Moi, je vais à la campagne, des fois, tu as des petits comptoirs de la SAQ dans des épiceries, mais on laisserait à l'entreprise privée. Pourquoi soudainement? Pourquoi le fromage? Pourquoi le fromage du Québec n'est pas la Société des fromages du Québec?
Parce que Parce que Richard, c'est dans le vin qu'il y a eu la prohibition. Je veux dire, c'est ça, l'alcool, là. C'est là qu'il y a eu des enjeux, justement, avec.
Oui, mais on est en 2024. On n'est pas en 1920.
Mais notre modèle fonctionne bien. Tu sais, l'idée d'envoyer les joyaux, ce qui fonctionne, les bonnes bouteilles, d'envoyer ça au privé, c'est la même affaire que dans le secteur de la santé, de penser que, ah, on va ouvrir des petits hôpitaux, puis après ça, tu sais, je veux dire, on gangrène la patente. C'est qu'à un moment donné, ça se tient.
Elle sait, attends une minute, là, c'est la mission de l'État d'offrir de l'éducation et des services de santé. Ce n'est pas la mission de l'État de vendre des produits de consommation courante. C'est pas dans sa mission pantoute.
Ben, je comprends, sauf que là, on a un modèle qui fonctionne, qui est rentable, qui génère 1,5 milliard de dollars sonnant, là, après avoir payé tout le monde à 23 $ de l'heure, après avoir ouvert des SAQ partout au Québec, après avoir eu des comptoirs, après avoir du vin de qualité, du vin moins cher, une offre exceptionnelle. On reçoit 1,5 milliard de dollars pour justement mettre dans les missions de l'État comme la santé, l'éducation, tout ça. Puis nous, on voudrait égrener ça pour donner les bouts qui fonctionnent bien, puis genre, tu sais, étioler le modèle, puis donner une partie au secteur privé. Ça va juste, qu'est-ce que ça va faire? C'est que les sources de profit vont être vraiment moins grandes. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont justement fermer les boutiques qui sont en région, qui sont pas rentables, on va se le dire, là. La SAQ, c'est pas en région, dans un micro-village.
Ne vois pas la logique de ça. C'est-à-dire, pourquoi le vin, ben, on peut se la bière, on peut se saouler avec la bière. Mais là, c'est correct. Ça, l'État dit oui, la bière, tu peux acheter ça dans un dépanneur, mais pas le bon vin, le vin, les spiritueux. Je ne comprends pas la logique. Moi, je suis un gars de logique. Là. Et si vous voulez à tout prix que l'argent rentre dans les coffres de l'État, ben, veux dire, ouvrons ça au fromage, à la bière, au tabac. Pourquoi le tabac n'est pas vendu par l'État? Le comptable, le prof Lauzon, voulait qu'on nationalise l'industrie du tabac et que toute vente de cigarettes, ça soit géré par l'État. Ben, tant qu'à faire, pourquoi pas?
Moi, je pense pas qu'on doit s'en aller là-dedans. Pour la bière, je pose une autre hypothèse, mais bon, je suis pas historienne, c'est que les entreprises de bière, c'est des entreprises québécoises et canadiennes. Donc, possiblement que, compte tenu que c'était brassé ici, ben là, la distribution s'est faite dans les épiceries à l'époque et tout ça, alors que le vin, on produit pas de vin. Donc, le vin, c'est seulement des produits d'importation. Et puis, sérieusement, moi, là, ma belle-famille est française, là. Et quand ils sont arrivés ici au Québec en 76, là, il y avait genre juste la piquette du Arfand des Neiges, je sais pas trop quoi les bouteilles qu'il y avait, là, mais tu sais, je veux dire, c'est comme, moi, j'hallucine quand je regarde maintenant au Québec à quel point on est capable de boire, là, des vins exceptionnels de toutes les régions du monde, de toutes les
régions. Ouais, mais c'est pas grâce à la SAQ, là. Si ça avait été au privé, c'est parce qu'on a changé notre vision, on a voyagé, on a bu du vin à l'extérieur, tout ça. Puis même si on avait des cavistes, parce que moi, j'ai rencontré des touristes français qui ne comprennent pas comment ça se fait que c'est l'État qui s'organise avec la vente et la distribution d'alcool. Ils comprennent pas ça.
Ben, ça, je peux comprendre de leur perspective. Ben, tu sais, si tu vas en France, là, je reviens de Paris, là, justement, il n'y a pas ben de diversité là-bas, là. C'est mieux de boire du vin français parce que c'est ça qu'ils vont te servir. C'est bien correct qu'ils font de l'excellent vin, puis c'est correct de promouvoir leurs produits. Mais nous, au Québec, là, sérieusement, on a une diversité exceptionnelle. Puis je reviens à l'Alberta, qui est souvent citée comme modèle. Mais l'Alberta, là, est-ce que tu es allé dans les boutiques de vin là-bas? C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est pire qu'une tablette d'un IGA, là. C'est, je veux dire, ça n'a aucun sens. On a un beau produit, un beau modèle qui paye les gens correctement, qui est comme en santé, je comprends pas.
Pourquoi des vendeurs au détail auraient des avantages sociaux de fonctionnaires avec un fonds de retraite blindé parce qu'ils ont mis des bouteilles sur des tablettes? Je veux pas lever le nez sur les gens qui travaillent à la SAQ. On a un très bon service, des bons conseillers. Mais comment ça se fait que des vendeurs dans des boutiques, soudainement, sont des employés de l'État avec tous les avantages qui viennent avec ça?
Ben, ça, c'est sûr que je comprends, effectivement. Là, ils se sont négociés des conditions de travail, mais je veux dire, c'est pas juste dans le secteur public qu'il y a des syndicats. Je veux dire, chez IKEA, t'as des vacances, t'as un régime de soins dentaires, t'as un régime d'assurance maladie, etc. T'sais, donc, il y a des entreprises privées. Air Transat, on a vu, il est en grève récemment, les agents de bord. Donc, T'sais, je veux dire, ça, que ce soit public ou privé, les conditions de travail des employés, je pense que c'est normal que dans une société avancée, on soit capable de les arranger. Puis, c'est ça, c'est tout le débat sur la syndicalisation. Est-ce qu'on a au Québec plus ou moins de conflits de travail qu'ailleurs? On en a moins, malgré notre haut taux de... Ben, en fait, grâce, je devrais dire, à notre taux de syndicalisation. Mais tu sais, je comprends. Moi, je suis pas en train de dire là, qu'il faut se mettre à tout nationaliser. Mais quelque chose qui fonctionne, qui est rentable, qui crée une offre. Tu sais, dans les régions du Québec, là, l'emplacement, je me rappelle pas c'est quelle ville récemment là qu'il s'obstinait sur où allait être la SAQ, parce que c'est comme au cœur du village, ça amène des gens à faire du commerce, à aller dans les petits commerces un peu à côté et tout ça.
Mais on pourrait avoir une grande chaîne aussi, une chaîne privée là de cavistes qui sont tous ensemble puis avec une force de frappe pour lâcher tout ça. Mais bref, écoute, comme on dit,
on le voit, les prix sont bons.
On a cinq secondes, c'est tout qui reste.
Regarde les profits qui sont de fou. C'est pas parce que c'est au privé qu'ils vont nous faire des prix d'amis.
Merci Alicie beaucoup.
Martino, l'opinion populaire. Cube Radio.
En direct à LCN. À LCN.
Cube Radio. Salut Richard.
Salut Audrey.
Donc on apprend ce matin que la facture pour la rénovation du toit du stade, déjà que c'était important, ça va être encore plus cher que ce qu'on avait annoncé.
Pierre Fitzgibbon l'avait dit, hein, ça sera pas 870 millions. Il dit, ça risque de coûter plus cher. Et là, il y a Jean-Louis Fortin du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui a épluché un document de 490 pages pour voir, là, tu sais, les vis cachés, là, pour voir les détails de l'affaire. Ça va coûter près $1 milliard, là, parce qu'il faut remplacer, bon Dieu, il faut remplacer pas seulement l'anneau technique, mais aussi les haut-parleurs, le système de ventilation, le système d'éclairage, l'électricité. Il va falloir aussi, à un moment donné, remplacer les gradins. On dit aussi les loges qui sont un peu vieillottes, qu'il va falloir refaire. Là, on appelle ça en anglais un money pit. Un money pit, c'est quoi? C'est que tu achètes une maison, mettons, là, qui est vieillotte, là. Tu achètes la maison, puis tu dis, je vais faire des rénovations, puis elle va être super belle. Et plus tu fais des travaux dans la maison, plus que tu te rends compte qu'il faut que tu fasses des travaux, parce que là, tu découvres que la galerie est pas correcte, puis après ça, c'est la toiture, puis après ça, c'est le balcon, puis c'est les fondations. Et là, tu te dis, ben, j'ai déjà mis 300 000 $ de travaux. Je suis pas pour arrêter là, parce que je vais perdre mes 300 000 $. Fait que tu remets plus d'argent et là-dessus, puis là, tu sais, à un moment donné, il va falloir un moment, je dis pas qu'il faut le démolir, le stade, mais se poser des questions, est-ce qu'on a besoin d'un stade aussi gros à Montréal? Il sert à pas grand-chose. Je regardais là les événements qu'il va y avoir au Stade olympique dans les prochains mois, il y a pas grand-chose. Metallica, Half Moon Run, puis c'est à peu près tout, puis on le sait que le son est extrêmement mauvais quand on va voir les spectacles là-bas. Il n'y a pas d'équipe professionnelle de baseball qui risque d'arriver à Montréal. S'il y en a une, je pense pas qu'ils vont vouloir jouer dans le stade olympique. Bref, on a un énorme stade qui sert à pas grand-chose. Est-ce qu'on peut rien qu'envisager, je dis pas qu'il faut le démolir, mais que ça serait peut-être une option à envisager, parce que M. Fitzgibbon a dit récemment en entrevue, et ça là, c'est assez incroyable, c'est assez croustillant, il a dit même si à moyen et long terme, ça serait une bonne solution économique de le démolir, j'envisage pas cette solution-là. Il est ministre de l'économie, puis il dit même si ce serait une bonne décision économique de le démolir, pour moi, il est hors de question qu'on le démolisse. Pourquoi? C'est comme une vache sacrée, vraiment, là, on veut pas toucher au stade olympique. Et là, on dit, c'est $1 milliard. Mais ça va être plus que ça. On le sait que ça va être plus que ça. Et est-ce qu'une fois qu'il va être... Ça va coûter $1 milliard, ça. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? On peut se poser la question, là, mais est-ce qu'on peut au moins envisager l'option de le démolir?
La Cour suprême, dans un autre sujet, Richard, s'est penchée sur l'immunité des présidents. Et tu te poses la question, est-ce que le président, justement, est au-dessus des lois, là?
Tu sais, Richard Nixon, quand il s'est fait pincer pour le scandale du Watergate, hein, il avait demandé à des petits bandits d'installer des micros au quartier général du Parti démocrate pour pouvoir les espionner. Et il s'est fait pincer et Richard Nixon avait dit « Oui, mais quand c'est le président qui fait quelque chose, ça devient comme par magie légal. Ça devient légal quand c'est le président qui fait quelque chose. » Écoute, je te pose une bonne question, là. Le 30 septembre 2011, je ne sais pas si les gens savent ça, mais le 30 septembre 2011, Barack Obama a fait assassiner un citoyen américain. C'est le New York Times qui avait sorti cette histoire-là. C'est un gars qui était né au Nouveau-Mexique, qui est devenu un imam radical, qui s'est mis à joindre les rangs d'Al-Qaïda, qui était responsable de plusieurs attentats terroristes, dont un attentat terroriste qui a fait 13 morts. Il était au Yémen et Barack Obama a ordonné son assassinat par drone. On a envoyé un drone là-bas, puis on a tué. Ça, c'est un président. Puis même, c'était pas un bon gars, ce gars-là, là, mais habituellement, ce qu'un président devrait faire, parce qu'il y a un système de justice aux États-Unis, c'est de respecter le système de justice, d'arrêter le gars, de l'extrader, de le ramener aux États-Unis, parce que c'est un citoyen américain, et de le mettre devant les tribunaux, et là, qu'il y ait vraiment un procès, là, en bonne et due forme, comme ça devrait être. Lui, il a dit non, je suis président, j'ai des droits que le simple citoyen n'a pas, donc j'ai le droit de faire tuer quelqu'un. Et c'est un peu ça, là. Tu sais, à l'époque, il y a des gens qui ont dit, ben, écoutez, imagine-toi si la Chine décidait, on envoie un drone à Atlanta pour faire tuer un ressortissant chinois qui vit maintenant aux États-Unis et qui critique le régime chinois. Tout le monde serait en disant, ben, ouais. Obama le fait, ça. Et là, la question qu'on se pose, est-ce que justement les présidents, au-delà de la question de Donald Trump, là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le principe, parce qu'un président a des droits que le simple citoyen n'a pas, c'est vraiment une question très intéressante et ça va être débattu par la Cour suprême.
Oui, la décision bientôt. Qui doit être rendue quelque part autour de fin juin, début juillet. Merci Richard, passe une belle journée.
Merci,
une belle fin de
bonne
semaine.
Journée.